m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, vous le savez, pour défendre le meilleur du bon. De bonnes adresses, des produits de saison, des conseils et puis les confidences de nos invités, c'est ici que ça se passe et pas ailleurs. C'est la saison des pommes, alors nous allons croquer le fruit défendu en armorique. Tiens, avoir l'estomac dans les talons, donner de la confiture au cochon, être dans la panade, nous allons passer en revue les expressions de la cuisine française. Elles sont nombreuses dans notre quotidien. Voici mes bons vivants du jour. Avec lui, on n'a jamais la dalle, on est même bien repu. C'est notre bistronome en chef, Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour Olivier.
Il n'a pas de lunettes en peau de saucisson, car il sélectionne les vins avec modération. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Yves, bonjour à tous les amis.
Les lunettes en peau de saucisson, c'est quand on voit trouble à cause de l'alcool.
Oui, ah, oui. Je connais
non,
pas
c'est
ça.
Pas obligatoirement ça, parce que je peux vous assurer, moi qui porte des lunettes en cuisinant,
oui.
Il y a bien souvent des peaux de saucisson,
oui.
Mais c'est pas l'alcool.
Non, mais c'est parce que vous nettoyez vos verres avec du jambon de Bayonne. Vous, c'est pas la même chose.
Il faut du gras pour nettoyer.
Et nous partagerons de belles Saint-Jacques avec l'humoriste satirique Pablo Mira. Il sort un livre très drôle qui s'appelle « Pourquoi vous faisiez ça ?» Voilà, de l'humour et de la gourmandise jusqu'à midi et demi. Alors, je vous le demande chaque samedi, hein, vous le savez, quel est votre goût de la semaine? Posez-vous la question à la maison ou en voiture. Je vous la pose, tiens, cher Olivier Pouls.
Eh bien, je vous l'ai fait goûter tout à l'heure. Je vous ai apporté un petit gobelet à chacun. Et dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du thé noir post-fermenté. En France, on a plutôt l'habitude de boire du thé vert. C'est ce thé à la mode qui est très bon d'ailleurs, hein, très, très bon pour notre organisme.
Riche en antioxydants.
Exactement,
oui.
Ça aide au détox. Mais moi, j'aime le thé noir. C'est un thé dont les feuilles ont séché au soleil, qui a ensuite été formé en forme de galette et qui a fermenté dans des conditions humides particulières. Et cette fermentation, elle peut durer des semaines, des mois, voire des années. Il y a des thés extraordinaires de complexité. Et vous avez vu, ça a des arômes qui sont très, très différents.
Il y a un petit côté fumé, moi, je trouve.
Un côté fumé. Ça sentait la paille, me disait Yves.
La paille, même
la grange. La grange.
Quand on rentre dans une vieille grange, c'est un côté un peu humide, ouais. la mousse,
on
la terre, la paille.
On peut avoir le côté un petit peu champignon, parfois. Ouais. Moi, j'adore ce thé. Voilà, c'est le Pouer, le thé noir post-fermenté.
Nos auditeurs en dégustent peut-être un en ce moment, oui. En nous écoutant, juste après 11h, comme ça. On les trouve où, ces thés fermentés?
Aujourd'hui, chez les spécialistes de thé, vous en avez. C'est vrai qu'il faut le demander, il faut se faire conseiller, parce qu'en plus l'eau et l'infusion est différente que pour le thé vert. On monte un tout petit peu plus haut en température et on infuse, je crois, un tout petit peu plus longtemps.
Le palais d'été, mariage frère, pour ne citer que
ces grandes, hein, voilà. Tous ces grands spécialistes d'été.
Votre goût de la semaine, cher Yves?
Mais c'est un goût de saison. C'est un goût de saison. On est en plein ramassage d'olives et dans la région des Baux-de-Provence, ils ramassent des olives vertes, mais vraiment très très vertes. Et ils font une recette qui s'appelle les olives cassées.
Cassées, voilà. Olives.
C'est une recette. C'est les olives qu'on mange pendant
Patrick
deux.
Patrick Bruel fait de l'olive.
Ah ouais. C'est les olives qu'on mange pendant deux mois. Voilà. Et alors ils prennent chaque olive, ils les cassent avec un morceau de bois. Après, ils les passent à l'eau pendant au moins une dizaine de jours en changeant l'eau tous les jours. Et après, ils font un genre de saumure un peu acidulée avec du fenouil frais. On les met à mariner, on les laisse 15 jours. Et là, on a ces olives.
Mais c'est bon, ça. Que c'est bon. J'adore.
C'est super bon. Et surtout cette saison et ça ressemble pas à l'olive qu'on est habitué.
Ah non, pas du tout.
Ça n'a rien à voir.
Il y a un petit côté saumuré quand même, parce que vous dites qu'on les a mises un petit peu au sel. Mais ça, je trouve qu'avec du thon cru, par exemple, un ceviche, ça pourrait venir jouer l'équilibre aussi.
Ah, ça peut, sans aucun problème. Et ça va aussi avec un petit muscadet.
À l'apéro.
C'est bon.
Et les petits morceaux de fenouil qu'il y a dedans sont délicieux.
Il y a du fenouil sec et du fenouil frais qui est mariné avec. Et c'est vrai que ça amène ce côté anisé. Je trouve que c'est...
Et ça se trouve où, ça?
Alors, on trouve ça, bien sûr, dans le sud-est, autour des Baux-de-Provence. C'est une spécialité des Baux-de-Provence. Et après, vous le trouvez dans les épiceries spécialisées.
Épicerie
sans
fine.
Aucun
D'accord.
problème. Les olives cassées, ça ne dure pas longtemps, mais c'est original.
C'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est la saison et les fugaces, souvent, la saison pour les bonnes choses.
Et Laurent, un petit goût?
Oui, c'est une joue de bœuf, tiens, chez Petrel, un restaurant du 9e arrondissement tenu par un couple. Une très belle joue de bœuf que j'ai dégustée comme ça un dimanche midi, avec une belle salle de restaurant, une belle ambiance. C'est ouvert également tous les soirs de la semaine. Elle était fondante, ma joue de bœuf, elle était soyeuse, avec cette belle réduction de vin rouge qui vient l'enrober. Et c'est vrai que ça va bien avec la saison, ça aussi. Allez, c'est l'heure du marché. On vous en emmène cette semaine à Marseille, au marché du Prado, dans le 8e arrondissement. Quel produit de saison aimez-vous cuisiner, chers auditeurs? Quel est votre budget, tiens, au marché? Vos réponses au micro de Stéphane Burga, le correspondant d'Europe 1 dans la région.
Moi, je viens tous les jours. J'achète mes légumes, mes fruits ici. Surtout qu'il y a des stands qui sont en agriculture raisonnée, pas chers. Ils sont là tous les jours, c'est frais. Dans le panier, j'ai justement des oignons de Mimizan, délicieux. Des pommes de terre excellentes. Une chair ferme avec laquelle on peut faire de la purée, du gratin dauphinois.
Moi, je préfère venir au marché. Là, maintenant, j'ai assez de pommes de terre, ça m'a pas fait cher, même pas 5 euros. Quand on achète sur le marché, on achète ce qu'on a besoin, 10-15 euros, quelque chose comme ça.
Et donc là, vous avez mis quoi dans le panier?
Les produits de saison, le raisin, les champignons, un petit peu les clémentines. Voilà, les pommes, c'est l'automne, quoi, je veux dire, les champignons surtout.
Là, j'ai acheté pas mal de trucs, j'en ai eu pour 40 euros, quoi. Donc, c'est beaucoup moins cher, quoi, en plus. C'est meilleur et c'est moins cher.
Merci, au revoir, madame. Merci Stéphane et merci messieurs, dames. Bah oui, c'est pas si cher de faire le marché. Allez voir vos commerçants, on choisit du bon, on est plus attentif à son budget, ça dépend, vous dites?
Ben, ça dépend des marchés. Et prenez l'exemple de Paris, et je pense qu'à Marseille, c'est pareil. À Paris, vous avez des marchés extrêmement abordables et à quelques rues plus loin, vous avez les mêmes produits qui sont trois fois plus chers.
Oui, mais sur les marchés, vous avez des producteurs aussi, qui ne pratiquent pas les mêmes prix.
Moi, je pense que la grosse différence, elle est là, c'est faire attention quand on va sur le marché, il faut éviter les revendeurs. Aller vraiment chez les producteurs.
Voilà, faut
être habitué, faut les reconnaître. Mais bien souvent, la chose la plus simple pour reconnaître un producteur, on va lui regarder les mains. Hein.
C'est ça.
Voilà, quelqu'un qui travaille de la terre, il a les mains qui sont sublimées, qui sont lissées par la terre.
Qui ont travaillé,
qui
absolument.
Transpire le travail de la terre.
On choisit du bon sur les marchés. Je le disais, on est plus attentif à son budget. Je trouve ça pas mal, moi, d'y aller avec un petit budget comme ça qu'on s'alloue, quels que soient ses moyens. Et une fois qu'on a tout dépensé, on a tout dépensé. Mais au moins, on sait qu'on va acheter du bon, quoi.
Oui, oui. Et puis une fois encore, il faut faire tout le tour du marché avant de choisir, avant d'acheter. Parce que là aussi, il y a des différences de prix parfois inexplicables.
On ne dira jamais assez parce que souvent, on est pressé. Mais il faut prendre le temps de faire le tour, ouais. Allez, c'est le week-end. Faites le marché, cuisinez, les amis. Et puis restez avec nous dans quelques instants. On va cueillir des pommes. Manger des pommes. Ah, j'aime bien les pommes. Bonjour. Bonjour.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Jaune, rouge, verte, c'est le fruit préféré des Français, dites donc. On en croque pour la pomme ce samedi matin. Il existe en France 5000 variétés de pommes anciennes. Hein. C'est ce que recense l'association Croqueurs de Pommes que vous connaissez probablement. On les salue, tiens, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable, incroyable. Et pour chaque variété, cette association décrit l'usage qui peut en être fait. Comme la pomme Faro, par exemple, Olivier.
Oui, alors celle-là, elle est rare. Hein. Je crois qu'il n'en reste plus que quelques hectares. C'est une très ancienne pomme. C'était la plus renommée de la région de la Brie, en Seine-et-Marne. Au Moyen-Âge, on en parlait déjà. Et c'est une pomme rouge assez aplatie, qui est assez peu acide et qui devient farineuse
si on la
pousse en maturité. Mais si on la récolte pas trop tard, elle garde un petit peu d'acidité, un petit croquant. C'est une délicieuse pomme à manger.
Et si je vous dis la roche, tiens, Yves Candebord.
Alors moi, je vous réponds tarte aux pommes.
Ah bah oui.
C'est mon dessert préféré. Et je pense que c'est une des pommes qui va le mieux.
Parce la roche.
Elle a cet équilibre entre l'acidité et le sucré qui fait qu'on arrive à avoir des tartes aux pommes avec une subtilité entre le sucre, la pâte feuilletée et la pomme qui est super intéressante.
Vous êtes l'école de couper la pomme très fine pour la tarte aux pommes ou plutôt épaisse?
Non, moi très très fine. Vraiment la tarte aux pommes classique fine, juste la pâte feuilletée.
La tarte
et
fine.
Et l'émincé de pommes posées dessus, quelques petites noix de beurre. Un sucre viergeoise.
Voilà.
On met ça dans un four à 220-230 degrés. On va la saisir. Et une fois qu'elle est bien saisie, que la pâte est croustillante, on va baisser un peu la température pour que ça caramélise la pomme.
C'est magnifique. C'est un des plus beaux desserts pour moi.
Et puis c'est d'une telle simplicité. Quoi. Après, juste une petite boule de glace vanille dessus.
C'est un chaud-froid.
Chaud-froid.
Ah, c'est
ça
beau,
marche
ça.
Tout le temps.
17 kilos par an et par personne en moyenne. Voilà ce que nous consommons comme pommes en France. Les amis, petite question. Quelle est votre variété de pommes préférée, Olivier?
Alors moi, j'aime la reine des reinettes. Et d'ailleurs, j'ai un pommier de reine des reinettes chez moi. Et je les ai récoltés il n'y a pas longtemps. J'ai eu de la chance. C'est un de mes seuls pommiers qui n'a pas gelé. Et je vais les garder une bonne partie de l'hiver. Parce que si on les met dans des caisses et qu'on les met à la cave dans un endroit un peu ventilé, on les garde sans problème.
Ça se conserve très très longtemps, effectivement. C'est celle qui ouvre le bal en automne. Et vous,
Yves? Et moi, c'est une pomme qui a un visuel très rustique. C'est la reinette clocharde.
Oui.
Elle n'est pas très jolie à voir parce qu'elle fait un peu piquer. Elle est assez un peu écrasée. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon au four?
On va récolter les pommes, tiens, avec Sandrine Prioul, la correspondante d'Europe 1 en Bretagne. Avant d'aller récolter les pommes dans les vergers, tiens, on va lui demander quel est son goût de la semaine. Bonjour Sandrine Prioul, et quel est votre goût de la semaine?
Bonjour.
Bonjour.
Kebab ou même kebraise.
Ah oui,
kebab breton. Eh oui, effectivement.
Ah bah.
Disons plutôt un nouveau comptoir de street food, la bouffe de rue plus gastronomique qu'un sandwich, plus qualitative donc, raconte son patron à nos confrères de West France. Parce que c'est vrai que depuis le confinement, vous avez vu se développer pas mal de ces offres de burgers, de sandwichs
haut
de gamme. Voilà, le kebraise ouvert à Rennes surf sur le même concept. Le sandwich est à 10 euros quand même, mais pour ce prix-là, eh bien, vous avez par exemple du poulet de genzé fumé, des légumes
bon,
de saison comme du chou-fleur pané, du pesto de coriandre, du pain à la farine bio et des fromages AOC. Voilà le kebraise à Rennes.
Eh bien, on prend le kebraise. Alors, c'est la saison des kebabs, Sandrine, mais c'est aussi la saison des pommes. Et vous nous emmenez chez un couple d'arboriculteurs en Ille-et-Vilaine, rencontre dans le verger.
Totalement passionnés par ces vergers, Amanda et Sébastien, ils font des pommes de père en fils à Sixt-sur-Raffe, sur la route de Redon.
Alors ça, nous sommes devant la Brayburn. C'est dans nos vergers bio. C'est une pomme qui est tardive, donc qui sera ramassée que à partir de la semaine prochaine. Et c'est une pomme qu'on vend en dernier, ce qu'on appelle la pomme de garde. Et elle tiendra jusqu'au mois de juin.
Donc là devant nous,
on va arriver dans le bout, là-bas, ça va être de la rainette d'Armorique. Chaque pomme a ses saisons. Une Elstar, l'a trouvée au mois de juin, c'est pas bon. En ce moment, par exemple, on va vendre la reine des rainettes, l'Elstar, la Royal Gala. Là, ce sont les pommes de saison. Et on passera après sur des pommes comme là, on est en train de cueillir, les dernières cueillies. Et à nous de faire que tout se suive pour garder les pommes qui se conservent le mieux en dernier.
Alors Sandrine, tiens, Amanda et Sébastien Blanchard préconisent de conserver les pommes au réfrigérateur. On n'y pense pas forcément.
Et oui, c'est étonnant, hein, mais c'est ce qu'il nous conseille, puisque la meilleure température pour conserver les pommes, c'est entre 2 et 4 degrés, et ce, qu'elles soient bio ou issues de l'agriculture conventionnelle, parce qu'en fait, ce couple d'agriculteurs, il est en ce moment justement en pleine conversion au bio, en douceur, car chacune des 18 variétés qu'ils cultivent présente des spécificités.
Il y a une partie qui est déjà en bio depuis quelques années, les Brayburn qu'on a vus tout à l'heure. Et là, on a une parcelle de reine des rainettes. On y va gentiment. Ce qu'on veut, c'est maîtriser la production pour arriver à présenter un bon produit de bonne qualité et à un prix correct.
Reine des rainettes en bio. Ah oui, je suis très, très content de celle-ci parce qu'on l'a bien réussi. Et bon, c'est au niveau de la conduite de l'arbre, c'est orienter les branches pour avoir des fruits à la fois mieux exposés au soleil et donc qu'il y ait plus de sucre aussi. Que ce soit parfumé et aussi ben, qu'elle soit jolie. Donc, celle-ci, donc, elle est striée rouge avec un fond orangé et après qu'il y ait du parfum, quoi.
Du sucre, bien évidemment, le nerf de la guerre pour ces producteurs de pommes, car ils voient bien le goût des consommateurs qui évolue au fil des années. Et si je peux vous livrer, moi, mon autre goût de la semaine,
oui.
Bien justement, c'est cette pomme de saison peu connue, la Bellechard,
ah oui.
Grosse pomme jaune, très, très douce.
Eh bien, on prend. Merci beaucoup, Sandrine Prioul, en Bretagne. C'est vrai que c'est une cousine un petit peu de la clochard, la Bellechard. Et pendant le sujet de Sandrine, on nous a apporté des pommes. Alors, il y a de la reine des rainettes, il y a de la jaune à gold, il y a de la méracle à flamboyante. Il y a plein de variétés, effectivement, qu'on aime découvrir. Qu'est-ce que vous croquez, tiens, Yves?
La Je préfère, ouais. Il y a une vraie acidité avec beaucoup d'humidité. Ouais. On sent la pomme fraîche.
Ouais, on aime bien quand elles sont juteuses.
Ouais, moi j'aime bien ça.
Ouais.
J'aime bien le côté très humide d'une pomme. C'est rafraîchissant.
Et puis vous savez que les pommes, si vous les mettez à côté d'autres fruits, elles vont contribuer à faire mûrir les autres fruits parce qu'elles dégagent l'éthylène. On appelle ça des fruits climactériques.
Et ben merci encore à Amanda et Sébastien Blanchard à Sixt-sur-Affe sur la route de Redon en Ille-et-Vilaine de nous avoir régalé avec ces belles pommes. Et ce sont les leurs que nous sommes en train de déguster actuellement. Encore quelques petites idées de recettes. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end autour de la pomme? Parce qu'il y a plein d'associations. Elle aime bien la noix, la poire, le raisin, les fromages, le caramel, on le disait, le boudin.
Ah bah oui, le boudin. En Belgique, on fait ce qu'on appelle boudin terre-mer.
Il coupe tout.
Boudin noir, purée de pommes de terre, compote de pommes.
Ah voilà.
Et c'est magique.
Vous savez ce qu'on fait en Berne? On prend des pommes. Le style de la femme boyante, on a une bonne pomme qui est bien acidulée. On va l'éplucher, on la cuit à la vapeur. Entre 10 et 12 minutes. Une fois qu'elle est cuite, qu'elle est bien chaude, on fait une tranche de boudin qu'on pose dessus. La chaleur de la pomme va tiédir le boudin Et après, avec une cuillère, on va écraser l'ensemble. Et à l'apéritif, juste 2-3 gouttes de cidre, vinaigre de vin posé dessus.
Ah, c'est beau,
un
ça.
Un petit madiran.
Eh ben, on n'est pas
et
bien.
C'est merveilleux.
Une idée de dessert. Tiens, moi, je vous propose un chausson à la pomme. Pas un chausson aux pommes, hein. Un chausson à la pomme. Vous prenez une variété de pommes, n'importe laquelle. Vous la mettez entière au four avec un petit peu de beurre. Vous la mettez à 180 degrés pendant 40 minutes. À la sortie du four, vous l'aplatissez avec une spatule. Vous la laissez refroidir. Et ensuite, vous mettez cette pomme aplatie sur un disque de pâte feuilletée que vous refermez. Un petit peu de dorure par-dessus. Et c'est reparti pour 30 minutes à 180 degrés. Et vous aurez pu glisser dans votre pomme de la confiture de groseille. C'est un chausson à la pomme et c'est pas du tout la même texture qu'une
on
compote.
On l'épluche avant.
Même pas. Manger des pommes, hein, on le disait tout à l'heure et on vous le redit.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Claquer le beignet, mijoter un sale coup, aller se faire cuire un œuf, notre cuisine, comme notre langue, ne manque pas de sel. Eh bien, ce samedi, on joue avec les drôles d'expressions de la cuisine française. Tiens, Olivier et Yves, quels sont vos préférés, tiens, avant d'accueillir notre invité?
Ben, moi, en tant que fils de charcutier, quand à l'école, on me disait « Arrête de faire l'andouille », je peux vous dire, j'étais fier comme ardemment. Je leur disais « Mais je n'arrêterai jamais, mon père, c'est le roi de l'andouille ».
C'est vrai, c'est beau ça.
Ouais. Balance la purée, moi j'aime bien. Ah, oui, c'est ça aussi, à l'école, on l'a balancé la purée.
C'est ça. Non, mais balance la purée, ça veut dire « Vas-y, mets la sauce, mets de l'énergie ».
C'est le cas de le dire, mets la sauce aussi.
Effectivement. Alors pour nous accompagner, j'ai invité l'autrice et chroniqueuse spécialiste de l'argot en France et de l'histoire de Paris, c'est Marcel Ratafia. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Alors, vous avez commis ce livre aux éditions Le Robert, 150 drôles d'expressions de la cuisine qui ne manquent pas de sel. Marcel Ratafia, l'argot, c'est votre truc. On trouve quelques expressions argotiques dans ce livre. Hein.
Ah oui, tout à fait, il y en a beaucoup. En fait, l'argot est très inspiré par la violence, le sexe, la drogue, l'argent, mais aussi la bouffe. Tout ce qui est bistrot, tout ce qui est pinard, tout ce qui est sauciflard.
Oui,
etc.
Manger son beefsteak, attaquer le rôti, gagner son beefsteak aussi, hein, ça, oui. Ce sont des expressions. C'est vrai que l'argot de bouche sert beaucoup à évoquer l'univers policier.
Oui, hein, tout à fait. Et il y a des raisons pour ça. Par exemple, la maison Poulaga. Vous connaissez un peu cette expression qui...
Le 36 quai des Orfèvres
oui,
à Paris.
Oui, tout à fait. Oui. Et alors pourquoi? Parce que avant d'être le 36 quai des Orfèvres, c'était le marché à la volaille. On y vendait des poulets.
Voilà pourquoi on appelle les policiers des poulets. Ouais. Et les bœufs carottes. Alors, il y a plusieurs versions. On dit parce que les policiers...
Parce qu'ils font mijoter.
Ils font mijoter. La police des polices fait mijoter. Ouais. Et il y a aussi une autre version, c'est que souvent, dans les bistrots à côté des commissariats, on servait un bœuf carotte et que c'était un des plats préférés des policiers. Mais c'est vraiment ça. La vraie version, c'est de faire mijoter. Le vin a son mot d'argot aussi, hein, Olivier, c'est le pinard. Hein, ouais. Vous, le monsieur histoire de la fourchette, là, dans Historiquement Vôtre.
Mais ce n'est pas de l'argot parisien, c'est de l'argot de caserne qui désignait en fait les cépages. Le pinard vient de pinot. Et le pinot ôté, par exemple, en Bourgogne, c'est le cépage principal. Mais vous avez aussi le pinot EAU. Ou AUD, et donc c'est Pinot qui a donné Pinard, et ça nous vient plutôt de la Lorraine, je crois, de la Champagne,
des casernements. Oui, c'est ça, ce sont les casernes. Côté vin, l'argot n'est pas avare, hein, avant de parler des expressions de la cuisine avec vous, Marcel Ratafia, mais il y a plein d'expressions autour du vin.
Oui, bah, rhabiller la frangine, par exemple, une expression que j'aime bien. En fait, la frangine, c'est une demi-bouteille, c'est une 37,5 en pays angevin, où on boit beaucoup de pinard, de jaja, de raisiné. Et après, il y a des expressions qu'on pense argotiques et en fait qui ont une origine, par exemple, prendre de la bouteille. Ça fait un peu, il a pris la bouteille, ça fait un peu argotique. En fait, ça vient d'une coutume romaine qui consistait à offrir pour un anniversaire une amphore de vin.
D'accord.
Donc à chaque nouvel anniversaire, c'était une bouteille en plus. Donc,
il a pris sa bouteille en plus. Ah, c'est marrant, ça je ne savais pas. Alors il y a le jaja aussi pour désigner le vin. Vous avez dit le raisiné, c'est ça. La frangine, c'est la bouteille. Si vous commandez un demi-deuil tiens, en faux col dans un bar, vous savez ce que vous allez recevoir, Olivier?
De la bière, oui.
C'est ça, hein?
Ouais.
Tout à fait.
Et un faux col, c'est avec pas trop de mousse, je crois.
C'est ça. Hein.
Le faux col, évidemment, c'est la mousse qui est bien blanc. Et le cercueil, c'est évidemment une blague de Carabin.
Le demi-deuil, oui.
Ouais, le deuil, parce que la bière est l'homonyme de bière qui n'a rien à voir étymologiquement, mais qui ressemble un peu à un cercueil.
Vous pouvez commander une mort subite.
C'est ça, oui.
C'est une bière.
Mettre de l'eau dans son vin, ça c'est une expression de la cuisine, de la langue française. Verser des pots de vin aussi.
Verser des pots de vin qui nous vient tout droit de la Bourgogne, région riche en pinard, où on appelait ça au Moyen-Âge pot de vin ou gracieuseté. Donc le pot de vin est resté. Et en fait, c'est exactement le même sens que dessous de table, puisque c'était quelque chose qui venait en plus, mais comme un bakchiche, quoi.
Ça n'a pas changé en fait de signification. Ça, c'est toujours pareil. Hein, les versets des pots de vin, c'est en échange d'avoir un marché ou une faveur,
oui.
Ou comment vous dites, une gracieuseté.
Une gracieuseté.
Oh, c'est ouais. Bien ça.
Absolument.
Et donner de la confiture au cochon. Alors là, on va attaquer justement dans le gras des drôles d'expressions de la cuisine qui ne manque pas de sel, là, que vous avez édité chez Le Robert. Donner de la confiture au cochon.
Oui. Ça a une origine un peu biblique, puisque je crois que c'est Saint Matthieu qui disait « il ne faut point jeter de perles aux pourceaux ».
C'est ça, exactement. Ouais. Oui. Petit à petit, la confiture remplace les perlouses, mais on n'en jette toujours pas au cochon.
Mais ce qu'on aime, c'est le cochon, qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté, j'ose dire, puisque un jeune roi au Moyen-Âge est mort renversé par un cochon, ce qui a jeté l'opprobre sur ce pauvre animal à queue en tire-bouchon. Et ça a donné vraiment une très mauvaise image du cochon, qui était plutôt un animal plutôt apprécié, même dans beaucoup de pays. C'est un animal
dans
presque
nos campagnes,
sacré.
Voilà, c'était un animal qui permettait de faire vivre longtemps une famille.
Et d'ailleurs, on dit tout est bon dans le cochon, et c'est pas Yves qui va...
Sauf les dents, comme dit Eric Hospital.
On en fait des colliers.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Se mettre à table quand on a la dalle, ménager la chèvre et le chou, avoir des oursins dans les poches. Comme la gastronomie, la langue française aime jouer avec la nourriture. On en parle avec vous, Marcel Ratafia. Vous venez d'éditer 150 drôles d'expressions de la cuisine qui ne manquent pas de sel aux éditions Le Robert. Ratafia, c'est votre vrai nom, c'est un nom de liqueur, vous avez un joli nom.
C'est un petit nom de liqueur qui nous vient de Bourgogne. C'est pas tout à fait mon vrai nom, mais j'aime bien ça, et surtout quand il est à la rose.
Les mots, les expressions ont un sens, une histoire. On ne peut pas les mettre à toutes les sauces.
Et
à propos de sauce, alors là, c'est un mot qui inspire de nombreuses expressions. Vous en connaissez, tiens, Olivier ?
Mettre la sauce.
Voilà, c'est ça.
Par exemple,
envoyer la sauce.
Rallonge la sauce.
Employer à toutes les sauces. La sauce inspire. Pourquoi elle inspire tant, vous diriez ?
Alors déjà, pour sa variété. Chacun a sa sauce préférée. Je ne sais pas laquelle vous préférez, mais
la béarnaise.
Ouais, la béarnaise, la mayonnaise.
Moi, mais ça change en fonction des saisons. Mais en ce moment, c'est la périgourdine.
Ouais, c'est vrai. Une bonne sauce vinaigrette.
Hein. Oui, mais aussi.
Une bonne sauce vinaigrette.
Bien sûr, oui.
J'aime la sauce poulette.
Ah, la sauce poulette. Tiens, rappelons ce que c'est que la sauce poulette. Tiens.
La sauce poulette, pour faire
ça,
simple.
C'est bon.
Voilà, ça ressemblerait, on va dire, à une sauce blanquette.
Oui, exactement.
Voilà, c'est une sauce blanche qui est faite avec un bouillon de volaille. Légèrement crémé.
Un peu de citron
et
aussi.
Un peu de citron, comme la blanquette. Et même, on peut le finir avec un petit jaune d'œuf final pour amener un peu de liant.
Alors, c'est un ouvrage érudit, hein, votre livre. On y apprend que la crèmerie n'a pas toujours vendu que de la crème.
Et non, parce qu'il faut imaginer que le restaurant est né à la Révolution. Et au 19e siècle, c'est l'explosion des restaurants. Et il y a toutes sortes de restaurants, alors plus ou moins haut de gamme. Disons que la crèmerie est plutôt bas de gamme. Dans le quartier des étudiants, dans le quartier latin par exemple, il y a beaucoup de crèmeries qui ne vendent pas que de la crème, mais qui vendent des petits plats pas terribles, des petits mijotés un peu douteux, du riz, des côtelettes, des machins. Et en fait, l'idée c'est que c'est pas cher, mais comme c'est pas très bon, on a tendance à en changer.
C'est ça, on va
changer. Pour voir si la pitain serait pas un petit peu meilleure ailleurs. Et donc, changer de crèmerie, ça, c'est ça que ça veut dire.
Merci, chers auditeurs, de ne pas changer de crèmerie. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. C'est ici que ça se passe, les bonnes adresses, les conseils. Et notre invité, Pablo Mira, qui viendra nous faire rire aussi tout à l'heure. Une autre expression, tiens, Marcel Ratafia, qui convient bien avant midi, c'est « avoir la dalle ».
Alors, on pense toujours qu'avoir la dalle, c'est avoir faim. À l'origine, c'était avoir plutôt soif, et plutôt soif d'alcool, on va le dire. Ça vient d'un vieux mot breton, en fait, qui appartient à la marine, puisque c'était un petit conduit sur les bateaux qui permettait d'écouler l'eau. Et donc, on voit l'idée un peu, le gosier, voilà, permet d'écouler du whisky, du pinard ou toutes sortes de choses. Et en fait, peu à peu, on a avoir la dalle en pente. C'est devenu...
C'est joli, ça.
J'ai la dalle en pente.
Mais oui, mais on voit l'image tout de suite, c'est ça.
On voit l'image, et puis c'est devenu avoir les crocs.
Yves, vous avez participé à ce livre, vous avez mis votre grain de sel. À part faire l'andouille, c'est quoi votre expression préférée ?
Ah, je pense que c'est donner la confiture au cochon. Parce que c'est vrai que c'est une expression moi, qui me fait énormément rire. Parce que quand on comprend la signification, je trouve ça une aberration. Un cochon, il faut le nourrir, justement. Il faut lui donner des bonnes choses. Il faut
le
rendre
bichonner.
Grand. Parce que si vous voulez un bon pâté croûte, si vous voulez du bon boudin, si vous voulez du bon pâté de campagne, il faut que le cochon il soit bon.
Mais il faut qu'il soit
donc,
bien
élevé. Et donc, il faut le bichonner.
Bien
moi, je me suis amusé à, à donner mon point de vue sur, sur les expressions, oui. Voilà, sur certaines expressions, mais c'est un point de vue voilà, qui est vraiment très personnel, où j'ai passé aussi des messages un peu forts par rapport à notre métier, aux produits, aux producteurs.
Aux expressions chaud de vent, qui est une expression qu'on dit beaucoup en cuisine.
Tout
alors vous préférez autre chose à chaud de vent? Vous dites chaud dedans.
Ouais. Oui. Oui, c'est vrai qu'on parle. C'est vrai qu'on dit toujours chaud devant. Mais malheureusement, dans les restaurants, Laurent, quand on mange maintenant, c'est tiède. Oui, je préfère qu'on me dise chaud dedans, que l'assiette soit chaude.
Oui, vous râlez contre les concours culinaires où on fait des dressages à la pince à épiler.
Oh là là, il a tout lu.
Je vous ai suivi.
Moi, ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est qu'on vous en avait trouvé 150. C'est énorme. Et je pense qu'il y en a même. De quoi faire un tome 2, non ?
Oui, largement. En fait, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui inspire les Français, pas que, mais c'est vrai qu'en France, on a énormément d'expressions qui viennent de la cuisine, alors soit des outils, soit des manières de faire, soit des produits. Et c'est vrai que, bon, moi qui suis spécialiste de l'argot, ça m'a tout de suite parlé parce que l'argot est vraiment riche en saveurs, enfin, si je veux dire, et ne manque pas de sel.
Ne manque pas de sel,
oui.
Ou de piquant.
Il y a une expression que j'ai découverte, moi, dans ce livre, c'est « aller de conserve ». Moi, je croyais qu'on disait « aller de conserve ». Vous
et
dites
non.
À lait de conserve.
Et oui, parce qu'on fait souvent la...
Suivre la même route ensemble.
La culbute. Mais en fait, conserve, ça vient du vocabulaire de la marine, parce que c'était à l'époque, imaginez, vous êtes un bateau honnête, on va dire, et il y a des pirates tout autour. Alors, cum servare, en latin, ça veut dire naviguer à vue. Et ça veut dire qu'on navigue avec quelqu'un d'autre. Il y a deux bateaux qui vont ensemble se frayer un chemin parmi les pirates. Et donc, de conserve, évidemment, ça rappelle la petite boîte de conserve qu'on connaît tous.
La petite boîte de sardines chères aux marins aussi qu'ils emmènent en expédition.
Évidemment, hein, le pâté du Mataf, mais aussi la petite boîte de sardines qui a été inventée par Nicolas Appert, qui a vraiment révolutionné la façon de manger au 19e.
Alors,
notamment sur les bateaux.
Il y a une expression qu'on entend souvent et on arrive à la fin de notre séquence, donc elle tombe bien, c'est le moment de régler l'addition. On dit souvent, vous payez par carte ou en espèces?
Oui.
Et là encore, la cuisine n'est pas loin. Hein.
Et non, parce que si vous payez vraiment en espèces, il faudra donner du cumin, du curry, de la muscade.
C'était
parce qu'à l'origine, on faisait du troc avec des épices qui coûtaient les yeux de la tête, vraiment. C'était une fortune parce que ça venait de... Ça venait d'Inde, ça venait du Sri Lanka, ça venait de la route de la soie. Et toutes ces épices étaient extrêmement, extrêmement appréciées dans la cuisine médiévale. Chose qu'on a oubliée parce que la cuisine classique est arrivée, a mis de la crème, du beurre, a complètement ratiboisé tout ce qui était safran, cumin, épices. Mais il y en avait dans tous les plats pour montrer sa richesse.
On
y allait pas avec le dos de la cuillère.
Eh ben merci Marcel Ratafia,
je vous en prie. Hein,
d'être venu nous voir. 150 drôles d'expressions de la cuisine qui ne manque pas de sel aux éditions Le Robert.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Eh bien ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité, cofondateur du célèbre site satirique Le Gorafi. Il joue avec l'absurde et l'actualité. Aujourd'hui, ce blaguiste, comme il se définit, sévit sur scène, sur Internet, à la télévision. Il vient de sortir chez First un livre qui s'amuse à décrypter les mystères de la vie quotidienne. Son titre... Pourquoi vous faisiez ça? Bah oui, on va lui poser la question. Tiens, bonjour Pablo Mira.
Bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être
ça
là.
Va
bah,
ouais.
Ça va bien, comme
très,
vous
très bien.
Pourquoi vous faisiez ça aux éditions First? C'est votre livre qui vient de sortir. C'est un super bouquin.
Ah,
c'est très bien écrit.
Ah, merci.
C'est très drôle. Et puis c'est toujours bien sourcé, comme on dit, parce que ça part d'une vraie information.
D'une vraie observation, en tout cas.
C'est ça. Hein.
Ce livre-là, puisqu'il faut rendre à César ce qui est au Benjamin, je l'ai aussi coécrit avec deux autres Benjamin qui ont bossé au Gorafi avec moi. Donc c'est Benjamin Vert et Benjamin Ifra, c'est des amis, c'est des potes, et en même temps on est devenus amis via Le Gorafi, c'est des machines d'écriture, et on a vraiment écrit ce livre ensemble, en se marrant, en essayant de trouver des observations vraiment absurdes, qui avaient du sens, qui étaient vraies, qu'on pouvait tous observer dans la réalité.
On va en décliner quelques-unes, avant d'en décliner quelques-unes, je voudrais qu'on s'arrête sur le titre, pourquoi vous faisiez ça, sans un non-sens qu'on n'a jamais compris, pourquoi vous faisiez cette faute de français?
Alors, ça m'a valu 2 mois de lobbying auprès de la maison d'édition pour que ça passe. Parce qu'au début, on dit qu'une faute d'orthographe, oui, c'est sympa, c'est marrant. Après, on se dit, c'est une grosse faute de français quand même. À un moment, il faut bien sortir du lot. Hein. Il y a énormément de bouquins. Donc, j'étais à deux doigts de mettre une tranche de viande des grisons en guise de marque-page. J'avais dit, j'étais à deux doigts pour... À un moment, il faut créer une valeur ajoutée. Bon, bah, j'ai renoncé à l'appel de la viande en guise de marque-page, mais on a laissé la faute de français.
Il y a quelques allusions à la nourriture, justement. Les kebabs, le McDo, on va en parler. Tiens, un non-sens, une interrogation, un mystère de la vie quotidienne. Pourquoi les militaires sont en tenue de camouflage dans les gares?
Alors ça, c'est vraiment l'idée qui est à la base du livre. C'était une vanne comme ça, qui était dans un sketch ou qui était comme ça. C'était donc les militaires qui font vigipirate en pleine ville et qui sont en tenue de camouflage forêt. Gare du Nord. Et donc en fait, c'est vraiment les personnes les moins bien camouflées de toute la Gare du Nord, parce qu'ils ont des fusils et des couleurs qui n'existent pas dans un milieu urbain.
Pourquoi les parachutistes ont un casque ?
Voilà, ouais, ça n'a pas de sens. Après, moi, moi j'aime beaucoup ceux qui viennent aussi de la pop culture. Celui qui me rend fou, c'est Cendrillon, le prince charmant. Il tombe amoureux de Cendrillon pendant un bal. Le lendemain, il part dans le royaume pour la retrouver. Il ne peut la reconnaître qu'au pied. Il ne pouvait pas se souvenir de son visage qu'il a vu la veille. A priori, c'est le coup de foudre et il ne peut pas la reconnaître au visage.
Mais c'est vrai. C'est un conte, mais oui, c'est vrai. Oui, mais c'est la pantoufle de verre.
Oui, mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans le royaume qui chaussent du 38 en pantoufle de verre non plus? Pourquoi il s'arrête forcément au premier pied qui fait du 38?
Vous faites tomber des mythes.
Non, mais tout est bien.
Je suis désolé.
Mais c'est ce qu'il fait.
Mais ça me met en colère, Laurent.
Il est peut-être fétichiste des pieds.
Oui, bah voilà, du verre et des pieds, on ne sait pas.
Et tout est bien vu dans ce livre et il est souvent question de nourriture. Par exemple, ce non-sens, le grec est une spécialité turque.
Oui, alors apparemment créé en Allemagne, mais on dit tous grec et ça n'a pas de sens. Après, moi, celui sur la bouffe, celui qui me fait peut-être le plus marrer, c'est les buffets à volonté asiatiques qui proposent des frites. Voilà, je me suis dit, on est dans une zone obscure de la réalité humaine, il faut en parler.
Donc on l'entend, vous aimez manger, Pablo Mira, quel est votre goût de la semaine, tiens?
Ah, le goût, c'est le goût de la sucrerie, c'est le goût des, allez si on a le droit de le dire, des merveilleux de chez Fred, que je donne à ma maman pour lui faire plaisir.
Pourquoi vous faisiez ça? Et si vous nous écoutez que vous êtes à Brive, eh bien vous pourrez aller voir Pablo Mira ce week-end, il sera cet après-midi et encore demain au Salon du Livre de Brive. Alors vous avez parlé un petit peu de saveurs asiatiques, de nourriture asiatique, on sait que vous êtes curieux, on a cru comprendre que vous aviez un faible pour les saveurs d'Asie, donc Yves, vous allez nous parler un petit peu de cette nouvelle cuisine où les influences asiatiques, effectivement, sont très nombreuses et plus précisément les influences japonaises.
Oui, les influences japonaises. Pour la gastronomie française, il y a eu un virage assez incroyable et qu'on n'a pas tellement identifié, on en parle rarement. J'ai eu la chance de vivre une conférence de presse de Pierre Troisgros à la Maison du Japon, il y a quelques années, qui expliquait le choc qu'il a eu quand il est allé pour la première fois au Japon en 1966. Il est revenu et il a dit, je change complètement ma cuisine.
Et qu'est-ce qu'il a changé techniquement dans sa cuisine?
Première chose qu'il avait subjuguée, c'est les cuissons. On était sur une cuisine française assez traditionnelle de mijotage et de longues cuissons. Il s'est rendu compte qu'en fin de compte, on couvrait les vraies saveurs du produit. Alors l'exemple type, c'est le homard. Un homard, à l'époque, on le cuisait 25 minutes.
Ah oui.
Pire quand il est revenu, entre 7 et 10 minutes. Les légumes, tous les légumes étaient bouillis en France. On faisait bouillir dans de l'eau.
Cuisson à l'anglaise.
Cuisson à l'anglaise. Il est revenu avec le croquant. Et l'exemple, alors lui, il fait ça en 66. Il y retourne au début des années 70 en amenant avec lui Roger Verger, Paul Bocuse, pour leur faire découvrir ce monde-là. Un monde nouveau pour la gastronomie française. Quand ils reviennent de ça, Paul Bocuse crée la fameuse salade d'haricots verts croquante.
Qui a plu autant à Gomillo et qui a fait rentrer effectivement
de
Paul Bocuse dans l'ère de la nouvelle cuisine de
totalement.
L'époque.
Mais la nouvelle cuisine part du Japon. L'historique de la nouvelle cuisine, ils l'ont découverte là-bas. Elle a complètement révolutionné.
Hein.
Voilà.
Dans les plats un peu populaires qu'on peut trouver quasi tous les jours dans les bistrots et tout ça, est-ce qu'il y a des choses vraiment où on voit la marque de cette cuisson?
On la voit, oui, sur pratiquement tout. On a allégé, parce que la cuisine japonaise, c'était une cuisine qui est toute en subtilité, en fraîcheur et en humidité. Alors que la française était quand même une cuisine assez ronde.
Okay.
Par exemple, ils ont retiré tous les féculents, toutes les liaisons qu'on mettait dans les plats classiques français, qui amenaient ces sauces un peu, voilà, qui tenaient au corps,
okay,
pour aller sur des choses beaucoup plus allégées. Mais c'est aller plus loin que ça.
Vous savez, comme il est attentif, on retrouve l'ancien journaliste, la Pablo
Mira.
Mais
ça m'intéresse, parce qu'on parle de la gastronomie japonaise, et c'est l'une des premières qui m'a le plus interpellé.
Vous êtes allé à Tokyo, vous avez...
Oui, j'y suis allé 6 jours et j'étais fasciné.
Le fameux menu dégustation vient du Japon. Quand ils reviennent, cette bande de la nouvelle cuisine, quand ils reviennent de là-bas, ils créent ces fameux menus dégustation avec 10 plats différents en mini-portions. Les petites miniatures, ça nous vient du Japon. Et encore plus loin, le service à l'assiette. Si je vous dis que ça vient du Japon.
Moi, il y a un truc qui m'avait saisi vraiment quand j'avais passé quelques jours à Tokyo dans la façon dont ils organisaient les restaurants, c'était la segmentation des spécialités. C'est-à-dire des restos qui ne font que des sushis, des restos qui ne font que des okonomiyaki ou quelque chose comme ça,
oui,
des restos qui ne font que des abats, que des tempura, et peu de mélange entre les deux. Évidemment, il y a des enseignes qui proposent des choses un peu plus transversales, mais une espèce de vraie segmentation de ce marché-là. Ouais, quoi.
Mais c'est vrai que c'est leur culture, comme les maîtres sushis qui, durant toute leur carrière, vont faire que des sushis.
Ouais. Il faut 10 ans pour faire un bon maître sushi. Donc, vous imaginez l'engagement que ça représente et tout ça, pour pouvoir être à la hauteur et ce respect du produit. Il y a ça aussi dans la cuisine japonaise. Il y a ce lien avec le produit et ce respect du produit originel.
Alors, on avait ce lien aussi dans la cuisine française.
Bah, on l'a toujours.
Et quand ils sont arrivés au Japon, ils ont découvert le gingembre, ils ont découvert le wasabi, ils ont découvert la sauce soja, qui aujourd'hui font partie de notre cuisine.
L'eau potable aussi, qui a été inventée au Japon, je crois. Non, je vais tenter.
Je vous écoute, moi. Le temps que ça monte, je me suis dit,
si vous étiez vif.
J'ai cherché. Et il nous a eu, il est bon. Hein.
On parlait du respect du produit. Moi, j'ai eu la chance de visiter le marché de Tsukiji à Tokyo, qui a fermé. Là où il y avait justement les enchères matinales sur les tons, où il fallait se réveiller parfois à 2-3 heures du matin pour pouvoir y assister. Et quand on parlait du respect du produit, c'était presque de l'ordre du rituel. La vente et la découpe étaient même de l'ordre du rituel.
Ah, mais ça reste un rituel. Bon, ils en ont refait maintenant un nouveau marché où il y a encore toutes ces ventes aux enchères. Et c'est vrai que pour eux, c'est un rituel. Mais moi, je voudrais conclure sur une chose importante, Laurent. C'est cette faculté qu'on a, la cuisine française, à aller chercher des idées extérieures, à se les approprier et à grandir.
C'est ce qu'on a fait. Donc la nouvelle cuisine française est une fusion entre la cuisine française traditionnelle et la belle cuisine japonaise, on peut dire, sans conclusion.
On a cette pertinence et c'est pour ça que je crois que la gastronomie française reste la plus belle.
Eh bien, merci Yves Condebord. Et tout ce qui a un rapport avec la gastronomie, vous le savez, vous le retrouvez dans votre boîte aux lettres sur Europe 1 en vous abonnant à la newsletter. C'est gratuit, la newsletter à table sur europe1.fr et vous l'aurez dès demain dimanche 10h dans votre boîte mail.
Gratuit, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Barriotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble depuis 11h. Vous retrouverez le début en écoutant le podcast sur europe1.fr. On a croqué la pomme dans le massif armoricain. Et puis nous avons aussi parlé des drôles d'expressions de la cuisine française. Et nous revoilà avec notre invité Pablo Mira. Pourquoi vous faisiez ça? C'est le titre de son nouveau livre paru chez First Edition. Un livre qui s'amuse avec les mystères de la vie quotidienne. On va en décliner encore quelques-uns parce qu'il y en a pas mal. Vous êtes sur scène aussi, hein, Pablo Mira, avec votre spectacle. Le titre, je le dis, Pablo Mira dit des choses contre de l'argent.
Voilà, en fait, j'avais pas envie de faire de la publicité mensongère, donc j'ai décidé de formaliser le rapport commercial avec le public.
Et vous êtes en tournée dans toute la France et vous serez les 26 et 27 janvier 2022 au Trianon à Paris, le 2 décembre à Vincennes, le 18 décembre à Issoudun et le 23 février à Clermont-Ferrand.
Exactement.
En 2012, vous créez avec votre compère Sébastien Liebus le site d'information parodique et satirique, c'est ça qu'on aime, le Gorafi. Vous étiez un vrai journaliste au départ. Hein.
Ouais, c'est ça qui est amusant. Je faisais de la télé, j'ai fait un petit peu de radio, je crois que je présentais quelques flash infos pendant une saison. Mais sinon, oui, je bossais surtout en agence de presse où j'enquêtais pour des docus qui étaient très, très, très sérieux à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de blagues dedans.
Alors, certains de vos articles parodiques ont même été repris, c'est ça que je trouve génial, par de vrais sites d'information. C'est drôle et c'est effrayant à la fois. Je vous donne une information, messieurs. 89% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. Et ben, c'était repris par l'AFP italienne, figurez-vous.
L'ANSA, qui est la grande, grande agence de presse italienne. Et donc derrière, en fait, c'est comme en France, quand c'est repris par ANSA ou comme l'AFP, c'est repris ensuite par tous les médias classiques. Et donc après, ça a été repris par le Corriere della Sera, qui est l'équivalent du Monde ou du Figaro en Italie, en termes de sérieux, de notoriété, de publication. Mais le pire, je vais vous dire, c'est un peu la partie affligeante, c'est que bon, le titre, il est là, il dit 89% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. On se dit, ok, bon, pour tomber dans le panneau, faut pas beaucoup réfléchir. Mais ensuite, dans l'article, on disait quand même que 10 autres pourcents, donc on arrive à 99%, pensaient que le clitoris était une divinité égyptienne. Donc on était en lien avec les Isis, Osiris, machin et tout. Et le dernier pourcent n'en avait jamais entendu parler. Donc, dans l'article, concrètement, on disait que 100% des hommes français ne savaient pas ce qu'était un clitoris. Et malgré ça, Ce qui est une absurdité totale. Ça ne peut pas arriver dans la réalité. Ouais. Malgré ça, ça a été repris au premier degré. C'est une folie. Je vous raconte un autre titre que j'ai dû faire, je crois, en 2013 ou 2014, en lien avec la nourriture, justement, et qui a été repris massivement. C'était « Toulouse, 2 points, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat ». Puisque dans le sud-ouest, on dit chocolatine. Et cet article-là, il a été cru massivement, non pas par des journalistes, mais par des gens comme ça, dans le sud-ouest. Des gens qui disaient « Ouais, mais tant mieux, parce que les Parisiens, ils font chier à dire pain au chocolat, donc tant mieux qu'ils se soient fait abattre. » Et les Parisiens, ils ont cru parce qu'ils se disaient « Ouais, mais les gens du sud-ouest, ils sont tellement chauvins qu'ils sont prêts à abattre quelqu'un parce qu'il a dit pain au chocolat. » Ce qui n'arrive jamais dans la réalité. Bien sûr. Ce truc-là a été lu massivement et pris au premier degré massivement. Et là, ça disait quelque chose sur les croyances des uns et des autres en fonction de la région et de leur représentation de ce qu'étaient les Parisiens ou les gens du sud-ouest.
Alors, votre dossier de presse vous présente comme un passionné de flamenco et de polenta aussi.
Mais c'est vrai, les deux sont vrais. Ça ressemble à une blague, mais c'est vrai. Il se trouve que je danse cette danse andalouse. C'est vrai. Et non, et la polenta au ceps, c'est un vrai truc. À polenta au ceps, sauce au mori, moi je suis heureux.
Hein, on est dans la saison des champignons. Alors voici l'heure du plat du jour. Et c'est le chef Jackie Ribaud qui va nous l'apporter en personne. Il vient d'ouvrir une nouvelle adresse à Noisy-le-Grand. Ça s'appelle les Mérovingiens. C'est ouvert depuis lundi. Et voici Jackie Ribaud qui rentre dans le studio. Bonjour Jackie. Installez-vous.
Bonjour Jackie.
Et il nous a revisité.
Ah ouais.
Voilà, comme vous, il aime bien les détournements.
Ah ouais.
Il aime bien jouer avec la nourriture. Et il a détourné le croque-monsieur et il nous a fait un croque-monsieur de compétition. Bonjour Jackie.
Bonjour Laurent.
Comment
bonjour
ça va
tous. Très très bien, très très bien.
Regardez la voix de Jackie déjà. Hein.
Non, je suis très très heureux d'être ici. Revoir Yves, toi Laurent, tous, Olivier, tout le monde, je suis très heureux.
Mais moi, t'en as rien à foutre, j'imagine. Hein. Il est venu pour les amis. Hein. Voilà.
Non, j'ai quand même, c'est bien.
Non, ça a l'air bien.
Il vous fait honneur, il a tout de suite
croqué. Ouais,
attends, on va attaquer. Voilà. Bah.
Ouais, on attaque. Non, là, en fait, on est parti sur, là, j'ouvre une brasserie donc à Noisy-Grand, les Mérovingiens. Et on est parti direct avec un petit, moi je voulais un croque-monsieur simple, qu'on puisse manger à toute heure, avec un bon verre de vin rouge. Et on a fait... le principe du poule bif, là.
Poule pork. Ces effilochés de viande.
Oui, effilochés de viande, en fait.
On part avec du...
On laisse cuire très longtemps.
Voilà. Ça met du temps à cuire, je crois qu'on peut dire ça.
Là, on l'a mis en basse température toute la nuit. Et ensuite, on l'effiloche avec une petite béchamel, un peu de comté râpé, des petits oignons que j'ai légèrement sucrés. Et ça, dans un petit pain de mie, voilà.
Ah,
et
il est beau, ça.
On toaste ça. Et moi, je trouvais ça sympa de pouvoir manger un petit truc comme ça à toute heure. Quoi.
C'est vraiment la saison, en plus, où on a envie de manger ce genre de...
Un petit peu relevé aussi. Hein.
Ouais, là, j'ai mis un petit peu de poivre de timout et un peu de poivre sarawak.
Juste une question comme ça de néophyte. Il y a un lien entre le pulled pork et le porc barbacoa, qu'on retrouve souvent dans les nachos, les trucs comme ça. Ça vous dit quelque
c'est
chose?
C'est une bonne question, il va nous mettre une colle.
Non, excusez-moi, non, mais c'est là que je suis curieux.
Réagissez sur les réseaux sociaux si vous avez la réponse, hashtag Europe 1. Hein. On va se renseigner, on va vous donner l'information d'ici la fin de l'émission. Vous pensez bien, on est en recherche absolue. Oui, c'est un joli détournement ce croque-monsieur. On le disait qu'il aime détourner les informations et les mots, Pablo Mira. Et vous aimez jouer avec la nourriture aussi, Jackie Ribaud, vous?
Là, au Mérovingien, en tout cas, nous on est parti parce que... Pour en revenir au restaurant, à la brasserie qui va ouvrir, c'est les Mérovingiens à Noisy-Grand. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande nécropole mérovingienne d'Europe.
Exactement.
Là où a été construit
l'immeuble,
où j'ai récupéré, moi, 300 mètres carrés pour faire un restaurant, la brasserie, les Mérovingiens, c'était des sarcophages. Et ils ont trouvé plus de 700 sarcophages mérovingiens.
Moi, j'ai une dent dans mon croque-monsieur, si ça vous intéresse.
Une bague ou une épée.
Une chevalière, tu sais.
Une chevalière de...
Je crois de Clovis, de
ah, putain.
De Gilbert. Et donc, je voulais rendre hommage à ce lieu, à cette ville où j'ai habité 3 ans là-bas aussi, et faire voir aussi qu'en banlieue, à l'est parisien, c'est-à-dire en dehors du périphérique de l'est parisien, on peut aussi ouvrir des brasseries sympas, chic, jolies, et qu'il y a une belle clientèle aussi là-bas.
Et oui, ça fait un moment que vous régalez les Parisiens et puis les gens de l'est parisien. Vous aviez le restaurant L'Ours à Vincennes, vous avez une étoile, Jackie Ribaud, et vous aimez renouer avec cette cuisine effectivement du quotidien, traditionnelle. Vous avez même mis en place dans cette nouvelle brasserie, les Mérovingiens à Noisy-le-Grand, un semainier. On en parle souvent en ce moment ici du semainier.
Le semainier, parce que je voulais absolument... avec mon chef que j'ai embauché, qui s'appelle Arnaud Baptiste, qui sort de Top Chef. Et donc, on a mis en place un semainier et aussi un brunch. Et le semainier, parce qu'on veut réhabituer... moi, j'aime bien faire une cuisine, on va dire, presque un menu ouvrier, quoi. Il n'y a pas,
pour tout le monde, un restaurant monde, voilà. populaire.
C'est-à-dire on va avoir des suggestions aussi et des plats du jour. Et le sommelier, à 20 euros, le sommelier, ce sera le plat du jour, entre guillemets, qui revient bien sûr le lundi, je passe avec la blanquette de veau, le poulet rôti, des plats très simples, très basiques, mais bien cuisinés avec des beaux produits.
On rappelle donc cette recette pour ce croque-monsieur, du paleron de bœuf.
Du paleron, cuit à basse température toute la nuit avec une garniture aromatique, vin rouge bien sûr, des épices. Et tout ça, bien sûr, effiloché le lendemain, mélangé avec une petite béchamel, du comté râpé, et mis ça dans un petit pain demi croustillant.
Qu'on et ben on peut la refaire à la maison ce week-end, cette recette, c'est et délicieux. Vous la trouverez sur europe1.fr. C'est vraiment délicieux. Pablo Mira, on a la réponse à votre question. Ah. Le barbacoa, c'est pour le bœuf, c'est mexicain. Okay. Et le poulpe porc, c'est du porc et c'est américain.
Voilà. Ok, d'accord. Okay.
Merci Jacques Ribaud.
Merci à vous.
Et qu'est-ce
merci.
Qu'on boit avec ça, tiens, d'ailleurs?
Là, c'est la cuvée, la Madelon, de chez Jean-François Galva. Et ce sont des cépages autochtones du Jura.
De vieux cépages jurassiens.
Cépages, et quelques gamets aussi.
Et vin nature, là. On sent qu'il n'y a pas de sulfite, effectivement. Il faut laisser s'aérer un petit peu perlant, mais c'est très agréable.
Il ne faut pas hésiter, quand on a ce côté perlant et un peu réduit, même dans le vin, à le carafer, à l'oxygéner. Une large oxygénation lui fait du bien.
Excusez-moi, j'y connais rien en vin. Perlant, ça veut dire quoi?
Un peu de gaz.
Ça frise un petit peu. Okay. Ça perle.
C'est un coca, quoi.
C'est pétillant, le coca. Perlant, c'est de la petite bulle.
C'est un peu en dessous.
Vous savez, c'est le de Funès. Elles sont comment vos bulles?
Ah oui, je vois.
C'est la toute petite bulle.
Je prends.
Perlant.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bon samedi midi à table avec nous et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Nous sommes en compagnie de Pablo Mira, l'homme qui manie l'humour satirique avec ce livre qu'on aime. Pourquoi vous faisiez ça chez First Edition? 101 non-sens qu'on n'a jamais compris et qu'on ne comprendra pas forcément après avoir lu ce livre. C'est ce que vous dites en sous-titre. Vous êtes en tournée également, je le redis. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent les 26 et 27 janvier au Trianon à Paris.
Faut que je les bosse, les gars, vous le savez.
Et dans ce livre, vous amusez donc avec les mystères de la vie quotidienne. En voici un, tiens, qui nous a plu ici. Les aliments surgelés qui pourraient s'appeler juste gelés.
Eh oui, mais on comprendrait le sens. Il n'y a pas besoin de rajouter le sur qui est complètement... inutile. Mais là, je me rends compte qu'on a beaucoup de choses sur la nourriture et l'alimentation, en fait, dans le livre. Le café décaféiné. Les dates de péremption.
Sur
le Roquefort.
Ah, c'est bien.
Bon,
ça.
Bah là, à un moment, on sait que le Roquefort, il peut marcher pendant 2-3 000 ans. Il n'y a pas besoin de marquer 2 septembre 2023.
Vrai. Ouais, mais c'est pas vrai.
C'est vrai.
Il aurait plus le même goût. Quand
c'est
même.
Vrai. Ah, oui, mais il perd le goût, mais il n'est pas dangereux pour la santé.
Il y a un moment quand même.
Mais
combien de temps? 2-3 siècles? Combien en vrai?
C'est ça la vraie question.
Vous savez, il y a un burger de McDonald's qui est depuis, je crois, 10 ou 15 ans sous une cloche et qui n'a toujours pas bougé. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
C'est un vrai truc?
Oui, c'est un vrai truc, ouais.
Ah, ça fout la trouille. Hein.
Ça fout la trouille.
Il y a un essai, d'ailleurs, je crois que là, on peut le regarder en vidéo, en direct, et ça fait des années qu'il est là, qu'il ne bouge pas.
Sur scène, vous interprétez un homme réac, persuadé qu'il a toujours raison et que les autres sont des abrutis. Qui vous a inspiré ce personnage? C'est de la copie?
Moi, je suis dans la transparence, on se dit tout. Au début, je me suis inspiré des éditorialistes et des chroniqueurs qu'il y avait sur RMC et BFM. Ceux qui étaient dans les grandes gueules.
Non, mais il dit ça parce qu'il a Europe 1. Hein.
Un peu de Christophe Barbier aussi. Et après, je dois dire que depuis un an et demi, je l'ai Pascal Prodisé. Je l'ai Éric Zemmourisé un petit peu, mon personnage, parce que c'est ceux qui attirent le plus l'attention et où il y a le plus de prise, de caricature, de satire.
D'aspérité, oui.
Ouais. Mais là, pour le coup, le personnage, il résonne, je le vois, hein, cette année, il résonne, et même à quotidien, parce que c'est le même personnage
que
je reprends à quotidien tous les mardis. Et vraiment,
quotidien.
Il résonne pas du tout de la même façon que les 3 ou 4 dernières années. Quoi. On sent que c'est un courant, j'allais dire, politique ou idéologique qui a une place vraiment particulière dans le champ médiatique et dans le champ politique en ce moment. Quoi.
Vous aimez le vin, Pablo Mira?
Oui, mais alors vous savez, j'aime le sucre. Donc moi, ça va être vraiment du blanc, du moelleux, des trucs comme ça. C'est vraiment, moi, ça me...
Vraiment, un Gewürztraminer, par exemple.
Mais c'est ce prisme-là. Si vous me mettez du sucre et s'il ressort en bouche, je suis client.
Et le diabète, ça va?
Oui, bah j'ai mal aux pieds. non, mais c'est un vrai truc. Le truc un peu sec, je suis moins client. Je comprends le délire, mais juste moi, de mes papilles, moi, ce que ça fait dans mon cerveau, ça me parle un peu moins.
Alors Pablo Mira et chers auditeurs, pour une bonne dégustation, vous allez le savoir et vous le savez peut-être probablement déjà, le contenant est aussi important que le contenu, et c'est ce que va nous dire aujourd'hui Olivier Pouls, dans les 2 minutes du vin, cher Olivier.
Oui, on parle des verres, et vous savez, depuis une trentaine d'années, les verriers se sont intéressés à la qualité des verres d'un point de vue organoleptique et non pas uniquement d'un point de vue esthétique. Et donc, on a remisé les jolis verres que avait notre grand-mère dans son placard, qui étaient certes beaux sur la table, mais qui ne fonctionnaient pas pour déguster un vin. Et le pionnier en la matière, c'est l'Autrichien George Riedel, avec une marque éponyme, qui était le premier à véritablement créer des verres ciblés pour la dégustation. Et il allait même plus loin que la dégustation, puisque les verres étaient ciblés en fonction des cépages et des types de vins. Vous aviez des verres pour vin rouge, pour vin...
Le Bourgogne, l'Alsace.
Pour c'est
le
vrai
Bourgogne.
Oui. Il segmentait cépage. Comme ça.
Ah, oui. Alors, évidemment, il fallait une armoire géante pour les ranger.
Ah, oui.
C'était beaucoup de travail intellectuel, mais c'était pas très pratique à la maison. Hein.
Donc la solution serait donc dans le verre qui s'adapte au vin, le verre universel, chers amis. C'est sérieux, le verre qui s'adapte au vin, ça fait un peu titre de Gorafi, mais c'est la vérité, ça.
Bah, oui, c'est sérieux. Et puis, un verre dans lequel vous pouvez tout boire, du champagne. Alors rappelons que la coupe et la flûte, bon, on la met de côté, hein, c'est pas très efficace pour goûter, notamment des beaux champagnes. Du vin rouge évidemment, mais aussi des vins jeunes, des vins vieux. Et le secret d'un verre, en fait, il tient dans l'équilibre qu'il a. Ses côtes, c'est-à-dire le diamètre qu'il a au-dessus, la partie la plus large, la proportion, la hauteur, le buvant. C'est vraiment une recherche scientifique qui conduit à élaborer des grands verres de dégustation.
C'est celui qu'on a là, alors. Là.
Voilà. Et alors celui-là, c'est un coup de cœur. C'est la marque Royal Glass. Ce verre a été mis au point par deux passionnés, qui s'appellent Laurent Violette et Jean-Pierre Lagneau. Ils ont mis des années pour rechercher le verre qui révèle les qualités d'un vin. Parce que ce qui est intéressant aussi dans un verre, on est là pour se faire plaisir, pas pour se faire du mal. Donc il faut que le verre soit au service du vin et non pas qu'il mette en avant les défauts. Et donc moi je trouve ce verre particulièrement bien équilibré.
C'est le 4-4 du verre quoi. On
c'est
peut
un
boire
peu ça.
Un Bourgogne, un Bordeaux, un Côte du Rhône sera très bien.
Exactement, c'est un verre qui est tout à fait abordable, environ
350 euros le verre,
non,
je crois.
12 euros pour les versions les plus simples mécanisées. Après il y a des versions plus prestigieuses, notamment avec du
redites
du
la cristal. Marque.
Ça s'appelle Royal Glass.
Non mais alors j'ai une vraie question. C'est est-ce que un mauvais verre entre guillemets peut nous faire passer vraiment à côté.
Oui.
Vraiment. Hein.
Vous faites un essai chez vous, vous prenez une bouteille de vin, vous prenez 3 ou 4 verres différents, un verre à moutarde, un verre comme celui-là, et puis un verre bas de gamme que vous avez acheté dans la grande distribution.
Et le ressenti et du goût est vraiment différent.
Que là, le nez, l'expression du nez tout d'abord, et ensuite même le ressenti en bouche ne sera pas le même.
Sur le champagne, c'est flagrant. Vous nous avez parlé
absolument
plusieurs fois ici d'abandonner les coupes et les flûtes et qu'il faut choisir
et
des verres à vin.
Un verre à vin pour décrypter le champagne qui est un vin comme un autre et qui mérite ça.
Pablo Mira est notre invité jusqu'à 12h30. Merci beaucoup Olivier. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
Ah,
ça chauffe, attention. Hein.
Ouais, là, on est à point. Là.
Ah oui, oui, ou saignant pour l'instant.
Saignant, saignant.
Quel est le goût de votre enfance?
Le goût de mon enfance, la pâte de haricots rouges. Ça a l'air un petit peu insolite comme ça, donc le yokan, hein, l'espèce de sucrerie japonaise, parce que le restaurant japonais, c'était l'événement, moi, dans ma famille. On y allait deux fois par an et c'était un dessert hyper rare à l'époque. Il y avait beaucoup moins d'épiceries japonaises sur Paris et tout ça. Et donc, c'était vraiment la rareté même et c'était vraiment un plaisir hors norme, quoi. C'était vraiment la rareté qui faisait l'événement.
Qu'on peut trouver comme ça dans des mochi ou dans des gaufres, par exemple, dans la cuisine japonaise. Votre plus beau repas, Pablo Mira?
Ah, alors, il est épique, hein, celui-là. J'en garde un souvenir épique, mais vraiment aussi positif que négatif. Hein. C'est-à-dire que c'était le 2023 à Ajaccio. C'était super, super expérience. Mais je suis ressorti de là avec un ventre gonflé jusqu'à la pomme d'Adam, mais tellement j'avais bien mangé, quoi. Je crois que je m'étais fait d'ailleurs une polenta au cèpe, et la viande c'était du sanglier, si je dis pas de bêtises, et c'était exceptionnel. Et j'ai dû faire une balade digestive de 3 ans pour vraiment tu sais éponger le truc.
Votre pire repas?
Ah, alors je crois, je l'ai évoqué tout à l'heure très vite fait, c'est les abats à Tokyo. À un moment, je suis à Tokyo et évidemment, il y a des devantures de resto que je ne comprends pas parce que je ne sais pas lire les kanji, pas encore. Mais et donc, je m'engouffre dans un resto avec ma compagne et deux amis et on se retrouve dans un resto d'abats. Alors, c'est très bien les abats, hein, je ne fais pas de jugement, je fais pas de l'abat-phobie, mais c'était pas ma cam, mais c'est très très particulier comme délire culinaire, quoi.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
En vrai, tous les tous les animaux exotiques de Wuhan, au fait. Tout ce qui est chauve-souris, pangolin. Je ne sais pas si c'est à l'origine de la pandémie. On n'est pas là pour refaire l'histoire, mais je voudrais connaître le goût de la chauve-souris de Wuhan.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
Le mango sticky rice. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le dessert justement qu'on retrouve. Et je me rends compte que j'adore l'Asie,
oui,
l'Asie
ça,
du
mais...
Sud-Est.
Ah oui,
c'est ce plat-là, donc c'est du riz gluant qu'on fait longtemps, j'allais dire mijoter dans du lait de coco avec du sucre de palme. Et à côté ou par-dessus, on met une mangue bien fraîche avec beaucoup, beaucoup de goût et parfois un peu de sésame par-dessus. Ça, c'est... Et j'ai envie de chialer là. Là, je vous parle. Là, je vous parle. Je suis en train de craquer l'armure.
On sent l'émotion. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Pablo Mira?
Des gens qui me font rire ou Blanche Gardin par exemple pourrait me faire marrer, je pense que ça pourrait être marrant de dîner avec elle. J'aimerais bien voir Emmanuel Macron pour voir ce qu'il est vraiment. J'ai jamais croisé. Je pense qu'on voit bien les gens pendant un repas, ils se détendent un petit peu.
Il s'est confié ici, c'est la première fois qu'un président se confiait sur ses habitudes alimentaires. Il nous a parlé de gibier, il nous a parlé de bécasse.
C'est un président de gibier donc.
C'est un président qui aime manger, qui connaît effectivement la gastronomie française et les vins. Oui, absolument.
Ok.
Et pour finir, Pablo Mira, le mot de la fin, FAIM.
Addition, hein. Là pour le coup, c'est toujours un moment un peu compliqué.
Elle est pour nous.
Elle est pour vous ?
Elle est pour nous, on
c'est
la
oui.
prend.
C'est oui.
Merci d'être venu nous voir, Pablo Mira.
Merci à vous, j'ai passé un bon moment.
Eh ben nous aussi, pareil. Pourquoi vous faisiez ça ? On passe un très bon moment aussi avec votre livre paru chez First Edition. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction. À la rédaction toujours, Julien Amat et Marion Sauveur. Salut Loïc Vimard à la réalisation. Merci Olivier Pouls, merci Yves Candebord.
Merci à tous.
Merci.